Strange avec le live MTV.
Mais que c'est bon!
Unplugged, ouais. Du coup. On oublie que c'est un Unplugged, on oublie que c'est un live, parce que comme il n'y a pas de public,
c'est
quand
vrai.
On l'écoute oui, comme ça, quand oui. On le voit en vidéo, voilà, mais quand on l'écoute juste comme ça, on oublie que c'est un live. Et on sent du coup qu'il y a vraiment quand même une perfection au niveau du son, de la musique, enfin de voilà, quoi. Pas de plantage, quoi, c'est quand même bien. Hein.
Ah bah ils sont carrés hein, Code Orange, sont très carrés. Hein.
Code Orange.
Code Orange. Non, on voit que ils ont pris à cœur le projet et c'est vrai qu'il manque bien évidemment les réactions de public hein, parce que les Unplugged sont quand même enregistrés avec tout ça quoi. On voit rien des émotions qu'il y a autour donc.
Ouais.
Voilà, mais bon, ils ont été à la hauteur de l'exercice on va dire.
Ouais ouais carrément. Du coup voilà, j'espère que ça a donné envie de allez faire un petit tour pour aller voir un peu ce live.
Moi en tout cas je vais aller l'écouter l'Unplugged, on peut le trouver en entier.
Ouais.
Tu peux le trouver en
moi,
entier.
Moi je te conseille d'écouter les morceaux en métal avant même.
Non, je vais peut-être pas commencer par ça.
Ah moi comme ça tu diras. Ah bah merde
super bien.
Je l'ai pas entendu, je l'ai pas entendu comme ça.
Ouais. Après
Non, je vais commencer par l'Unplugged, je t'assure.
Ouais, d'accord. Ouais.
Tu vas voir l'album complet est très bien.
Ouais.
Oui, mais j'en doute pas.
Il passe tout seul. Je trouve.
Voilà. On va parler de Alison Mosshart.
Bah écoute, ouais, j'aimerais bien revenir. Bah alors, j'en avais déjà parlé la dernière fois. J'avoue, je suis amoureuse, moi. C'est pas possible.
Hein. Ouais, mais enfin, on avait eu très peu de temps quand même. Aussi.
Bah, on avait peu de temps.
On va devoir l'inviter dans l'émission. Hein.
Vous m'entendrez plus. Je serai complètement hébétée devant cette femme. Bref, en fait, on avait parlé la dernière fois de Karma, le bouquin de Alison Mosshart. En fait, c'est un donc des Kills. Et de The Kills. Et en fait, voilà. Bon, donc, Alison Mosshart a sorti chez Sandman Records un bouquin sur les voitures, tout ça, la liberté. Tu vois, pas mal de photos, de poésie et tout qui sont écrites dans ce livre. Et en fait, à la grande surprise de tout le monde, en fait, elle a proposé un album, hein, mais... C'est pas vraiment un album musical, hein, c'est une espèce de sculpture sonore. Enfin voilà, c'est quelque chose auquel on ne s'attendait absolument pas. Enfin voilà, c'est une expérimentation. Donc,
je suis très curieuse parce que j'ai pas du tout été écoutée et du coup ça me laisse perplexe.
Ah si mais c'est pas mal, hein. Franchement moi
j'en doute pas. Mais...
En fait par rapport au personnage, hein, c'est assez intéressant quand même ce qu'elle a fait. C'est culotté je trouve, hein, parce que là du coup. Elle laisse complètement aller... En fait, elle est quand même peintre à côté aussi, ouais. Alison Mosshart. Et tu te rends compte que c'est une nana qui expérimente beaucoup de choses en termes de création. Et elle a le culot de faire ça, quoi. Je ne sais pas comment ça peut être reçu sur la scène rock, mais c'est très expérimental, en fait, ce qu'elle fait. C'est un travail de plasticien, quoi. C'est de la performance. Ouais. Parce que, bon, le truc, c'est qu'elle sort un livre. Il y a ce CD Sandwheel. Mais il faut savoir aussi que toutes les vidéos qui illustrent les mini-clips de Sandwheel, c'est elle aussi qui les fait.
D'accord.
Dans lesquelles parfois elle apparaît, où elle est un espèce de personnage un peu perché. Enfin, c'est assez expérimental encore, hein, ce projet.
Ouais.
C'est vraiment une nana qui va au bout de son projet, quoi. Elle fait tout, toute seule.
D'accord.
Jusqu'à ses vidéos, quoi. Donc, du coup, voilà, j'étais très impatiente de découvrir cet album.
Bah tiens.
Donc, Sandwheel donc, est sorti en août 2020. Sandwheel, c'est la boucle sonore. Et donc on a à peu près une heure d'écoute, 47 titres.
47 ?
47 titres.
Bah, tu peux parler de la pochette ?
Bah, c'est une roue.
Ouais, c'est un pneu.
C'est un pneu.
C'est un pneu.
Voilà, c'est un pneu parce que de toute façon, en fait, l'histoire de Sandwheel, c'est l'histoire de Karma. C'est des bagnoles, la liberté de voyager en voiture, ça sent le crissement de pneus, ça sent la carrosserie qui lui, tu vois, ça sent
pas l'écologie.
Ça sent pas l'écologie, pas du tout. Ça sent la musique en voiture, enfin voilà, le fait de se perdre en bagnole aux États-Unis, tout ça, cette espèce de...
Quand on analyse d'air si arriéré, on pourrait se dire que c'est un truc de bonhomme, tu vois.
Alors, ça pourrait être un truc de bonhomme, mais c'est un peu un bonhomme hein, quand même. Alison Mouchard, elle est pas. Elle a un côté féminin.
C'est
une punk. Hein. Bon, faut pas oublier voilà, qu'elle elle fait de la musique quand même depuis très longtemps.
Elle est assez féminine comme Nana.
Elle est très féminine, mais elle a un côté très, très masculin quand même aussi.
Non, mais je pense que c'est dans les envies.
Bah, faut savoir que son père était concessionnaire de voitures. Oh, oui, c'est vrai, on en avait parlé la dernière fois. Ouais. Donc, c'est une Nana qui a baigné en fait dans les bagnoles depuis qu'elle est gamine. Quoi.
D'un garage Renault à Los Angeles.
C'est ça. C'est ça. Merci David.
C'est quoi en Renault, tu sais, quand tu pars, je sais pas quoi, tu dis. Ah merde, il y a une expression avec les trucs Renault.
Ah, ouais, je ne sais pas.
Ah, ça me reviendra.
C'est pas le chanteur
quand,
Renault.
C'est pas quand t'arrives.
C'est pas le Renault avec le pastis.
Non, rien à voir.
Donc, pour revenir là-dessus, hein, écoutez les gars, parce que j'ai pas beaucoup de temps en plus.
Ah, mais non, on doit citer plusieurs marques. Donc, c'était une Peugeot alors.
Non, c'était un
concessionnaire
ouais,
Peugeot. Non, un concessionnaire
non,
Citroën.
C'était une Fiat.
Concessionnaire.
C'était une Fiat.
Concessionnaire Lada.
Elle a fait le tour des States en Panda. Donc, ça a été très long. Ça a été très 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 long. C'est
d'où
pour
les
ça que
47
c'est
morceaux.
Ce que j'allais te dire. D'où les 47 morceaux. Mais il a fallu faire des choix parce qu'il fallait que ça dure une heure. Je pense que bon. Elle avait quand même pas mal d'heures d'enregistrement en étant dans une panda, on est d'accord. Donc, comme j'avais expliqué la dernière fois, et là, du coup, j'ai pu le constater, en effet, la majorité des morceaux sont faits avec un enregistreur 4 bandes. Donc, elle déclame des textes, des poésies sur fond sonore, on l'entend fumer, enfin, elle est vraiment dans son truc, quoi. On voit...
Quoi un enregistreur 4 bandes?
Alors, c'est un vieil enregistreur, en fait. Hein. C'est,
non, mais je demande ça, parce qu'il doit y avoir des gamins de 17-20 ans. Enfin, je sais pas, enfin, des gamins, façon de parler.
Donc, ouais, ça n'est pas un iPhone.
Des jeunes hommes, des jeunes femmes.
Ça oui, n'est pas un iPhone.
Oui, David, David.
Oui, non, mais de 17-20 ans, qui doivent se dire, mais c'est quoi un 4 bandes?
Bah oui.
Parce que nous, on a connu ça, on était petits. Après, ça n'a plus existé quand
du
on
coup,
était déjà
je pense que quand on va entendre les morceaux, on va voir le grain, en fait, que ça apporte aussi, en fait. Hein. Ouais. C'est un peu comme... Le grain d'un vinyle, en fait, ça amène une texture, en fait, ouais. Au projet. Bah, de toute façon, voilà, j'avais vraiment envie qu'on en avait parlé la dernière fois, mais on n'a pas passé de morceaux. Et là, du coup, ce soir, on va en passer 2. J'aurais aimé en passer 10. Ça n'aurait pas pris beaucoup de temps, en fait. Hein.
Morceaux, je dirais oui et non.
Non, ce n'est pas des morceaux. Ce sont des extraits. C'est une expérience sonore. Donc, il y a un petit peu de tout là-dedans. Donc, du coup, voilà. Comme je le dis, il y a ce timbre d'enregistreur et il y a des conversations téléphoniques, par exemple, où elle n'est pas toujours présente. Tu as des conversations téléphoniques où on sent qu'elle a enregistré d'autres personnes. Il y a pas mal d'interludes aussi qui sont assez marrants. Il y a des choses, on sent que c'est des délires, des choses comme ça qu'elle a conservées. Il y a des lectures de courriers. D'ailleurs, il y a un morceau qui s'appelle The Distance où du coup, on sent que c'est un échange épistolaire qu'elle lit. Mmh. Elle parle espagnol dans At Minute ou Hide Horses. Mmh. Il y a des enregistrements en intérieur, en extérieur, dans la rue, en voiture, parce qu'on entend le GPS causer en fait en arrière-plan, tu vois. Donc du
elle
coup
parle
voilà.
Français ou pas?
Alors elle parle. J'ai pas entendu parler français. Tu l'as entendu
dedans,
parler français?
Non, je demande. J'ai pas
non, non, moi j'ai entendu que en anglais et en espagnol.
D'accord. Non, parce que sinon on aurait pu essayer de la recevoir dans le médiateur circus. Mais qui a remis une couche.
Donc voilà, en fait c'est assez divers. Du coup, alors je sais que c'est particulier d'écouter ce genre de son parce que bah, du coup moi je m'y suis attelée, j'ai écouté, j'étais très curieuse en fait. À chaque morceau en fait je me disais qu'est-ce que ça va être après quoi, tu vois, de par la diversité du truc ouais. Et tout. Et puis tu te dis qu'en fait c'est une nana qui travaille beaucoup sur la mémoire en fait. Hein. Je pense que tout ça c'est une accumulation d'enregistrements. Elle garde une trace de ce qu'elle fait. En plus comme elle peint aussi par rapport à... Je vois qu'elle est très régulière en fait dans ses peintures. C'est quelqu'un qui écrit aussi régulièrement. Donc voilà, c'est vraiment une artiste complète qui touche à tout et puis qui a besoin de marquer les choses en fait avec son temps quoi, tu vois.
Ouais.
Donc voilà, et comme je disais bah, du coup voilà, pour continuer en fait sa performance d'artiste, elle conçoit elle-même donc les vidéos. Et donc du coup pour les morceaux de ce soir les deux morceaux donc qu'on va écouter correspondent aussi à des vidéos qui sont présentes sur le web. Donc je voulais vous mettre celle-ci pour que vous ayez la curiosité d'aller voir aussi les vidéos qui accompagnent donc ces morceaux. Donc on a Returning the Screw. Donc où là c'est une espèce de vidéo surveillance en fait, c'est assez étrange, assez voyeuriste comme vidéo. qui a en plus un rythme assez accéléré, qui fait assez brut ton corps dans le même esprit que l'enregistreur 4 bandes. Là, on a vraiment l'impression d'une vieille caméra vidéo à l'ancienne. Et on a Last Pack of Holy Smokes. Donc là, c'est assez étrange aussi, sa performance, en fait, elle est encore de face, hein, donc elle est présente dans cette vidéo aussi. Et donc, elle doit être face à son ordinateur, en fait, face à sa webcam ou face à une caméra. Elle met une LED frontale, hein, sur elle, alors du coup, comme elle est blonde, avec la peau assez blanche, hein, paf, du coup, c'est assez cru, en fait, c'est un éclairage très cru, derrière, c'est tout noir, tout ça. Et donc, j'en dis pas plus, parce qu'il faut regarder, on se dit que quand même, elle est quand même loin, aussi, Alison Mouchard, des fois. Donc, voilà, on va passer, donc, Returning the Screw.
On va passer l'inverse, dans le sens.
Last Pack of Holy Smokes, hein, et Returning the Screw, pour se donner une idée, un petit peu de... La texture et l'empreinte de Alison Mouchard sur Soundwheel.
Last pack of holy smokes.
Vous êtes sur Mediator Circus.
I was down in Lakeland, Florida for a few days. An army of women were in the street outside my hotel waving banners. Capital letters, capital letters, capital letters. Women for Trump. Right after Trump had just professed to grabbing strangers' pussies. So there I was, walking around Lakeland's historic district, holding my pussy. In the cannibal sun and feeling betrayed by these women and furious about Trump, while noticing the streets were full of insane cars. Insane cars and these guys in their flip-flops and Florida gear, slurping Pepsis, dressed like toddlers, loafing around, polishing hoods and mirrors and cranking down windows. While the wives and the girlfriends with underbites like bulldogs swung their banners, slurred their slogans, burped their sodas, kept following me around because I was walking right through the car show, still holding my pussy, thinking to myself, probably out loud, I had better photograph these cars since I'm here. Somehow save these cars' souls if I can. The last of chrome innocence, the last pack of holy spirits in the glove box. Take them and run and go lock yourself in your room and let go of your junk. Triple bolt your door, close the curtains, light one up, see into the future. If Trump is elected, all these folks who support him will probably get screwed six ways from Sunday. Crying, holy smokes, when all these pretty cars have to go to auction. This ghost you call me, the meal of my life, you saw me speeding by. Wrangled by cowboys, baited like fish, dripping like ice cream down somebody's wrist. This ghost you call me, the you-know-who, the nights you caught me spitting through without my decoys, wheels in a ditch. Naked and angry and dirty and pissed. This ghost you call me, doing what I do. The outlaw's Harley, the other shoe, sure haunts you badly wearing that perfume. You make it easy to fill the mold. And this ghost you call me knows your tone, amplifies it, feedback loop, right back at you so flowers gone. Every violet hell breaks loose, so I'll drive all night, I'll drive straight through.
Ah, pardon, on a oublié de mettre le micro.
C'était Alison Mouchard, donc pour l'album Soundwheel. Et donc, on a écouté Returning the Screw. and Last Pack of Holy Smokes.
Ouais.
C'était bien ça, dis donc.
Eh ouais.
Ouais,
on va changer de registre.
Oh, vers où tu vas nous amener?
Vers le métal. Le métal. Le métal.
Là, tu nous donnes déjà des indices sur la suite, en fait.
Ouais, bah ouais, un peu ça.
Avec voilà,
je vais arrêter de crier dans
adoptes.
Le micro. Oui, c'est un peu ça. Là, en fait, je vais vous parler d'un groupe que beaucoup de gens connaissent, mais d'autre part, tu vois. Et c'est Ultra Vomit. Un groupe de métal.
Je connaissais le nom.
En métal rigolo, on peut dire, tu vois. Un groupe de métal rigolo, métal parodique aussi, parce qu'ils font de la parodie aussi.
Ouais, mais bien fait, hein. C'est quand même bien fait. Bah,
ils se moquent sans se moquer, enfin, c'est compliqué, parce qu'ils sont tellement forts dans la performance. Voilà, ce sont des Nantais. Déjà, hein, c'est des Bretons, hein,
non,
Freddy.
Sud-Bretagne.
Mais non, ils sont de Nantes. Ils avaient fait, ça fait depuis que je vous dise pas de bêtises. Ça fait depuis 2000 qu'ils exercent. Donc voilà, ils ont fait des tas de des chansons. Je collectionne les canards, n'importe quoi. Enfin, bref, et là ils ont fait Panzer Circus qu'ils ont sorti en 2017. Et qui a fait un buzz total. Là, quand ils ont joué au Hellfest, ils ont joué sur la main stage, c'est-à-dire la scène principale, où c'était rempli et tout le monde connaissait les paroles. Enfin, tout ça. Donc voilà, ça chante en français. Ils font des chansons où ils imitent Rammstein, où ils font Camtar. Enfin, ouais. C'est mon camion sur l'autoroute, j'en mets capote. Enfin, c'est tout comme ça, mais avec l'imitation de la voix et du style musical. Et ils font ça avec Motorhead aussi, où ils chantent « Quand j'étais petit, je n'étais pas grand, je montrais mon cul à tous les passants », mais en version Motorhead.
Voilà.
Ouais, mais, et jouer façon Motorhead et avec l'imitation de voix, tout ça. Enfin, il y a toute une performance dedans. Ce sont de très bons musiciens.
Ouais, c'est ça.
Très
ils
bons
le font
musiciens.
Tellement bien qu'on voit à quel point aussi ce sont des bons musiciens.
Ouais. Et puis là, bah, pour détendre un peu l'atmosphère, on va passer à... L'atmosphère n'est pas tendue.
Bah ouais, c'est ce que j'allais dire. T'es tendue, Natacha, bah oui. T'es tendue.
Non, mais Alison Mozart est un peu triste sur ce dernier morceau.
Oh.
Et Code Orange aussi.
Elle est en train de faire des freins à main sur le parking, là. Alison Mozart, elle est pas malheureuse. Hein,
non, ouais, mais... Non, mais musicalement, Code Orange.
Elle a peut-être crevé aussi.
Bon, c'est fini, gonzesse, là.
Ça va.
On va pas me niquer ma chronique, non plus. Donc je disais, j'ai coupé le micro.
Allez,
hop, voilà. Donc je peux parler. Ah, on vous entend plus.
Donc, censure, oui. Censure.
Oui, je suis le César.
Censure.
Donc je ne sais plus ce que je disais. Mais du coup, on va écouter Ultra Vomit.
Tu voulais détendre l'atmosphère.
Oui.
Ouais, non, mais on écoutait pas mal de choses tristes, quand même.
Oh, non.
Dans Code Orange, c'était pas gay, hein. Bon, excuse-moi, la reprise d'Alison Chase dans Inner Hall, elle est pas gay, hein, non plus.
Elle est pas gay, mais nous, on était contents de l'entendre.
Bon, ouais. Oui, on était contents de l'entendre. Non, mais je dis pas ça. Oh, je dis pas. Voilà, là, c'est un côté plus humoristique, hein. C'est pas.
Oui, d'accord.
Donc, le morceau Un chien géant, c'est un foutage de gueule de Tagada Jones, un groupe français. Je crois qu'ils sont de Bretagne aussi, ou de Normandie. Donc voilà.
La Normandie n'est pas la Bretagne. Hein.
J'ai dit de Bretagne ou de Normandie. Hein. J'ai pas dit et de Normandie.
Oui.
Mais voilà. Mais bon, ce sont des amis à eux aussi, machin, enfin tout ça. Donc c'est, ils rigolent, mais ils se moquent sans se moquer toujours. C'est,
oui.
Et en général, d'être Gojira, qui était le plus gros groupe métal français connu dans le monde, ils avaient fait une reprise de un mélange de Calogera et de Gojira. De Calogero et Gojira, qu'ils ont appelé Calogira. Et du coup, c'était Face à la mer, version Gojira. Donc, ils faisaient version métal de Gojira et ils chantaient Face à la mer. Enfin, voilà, c'était. Mais c'est drôle. Et voilà, là, ça va être un chien géant, du coup. Donc, ils se moquent un peu de. Nous vivons tous dans un chien géant. Tout le monde le sait, mais personne ne dit rien du tout. C'est ça, un peu les paroles. Et puis le deuxième morceau s'appelle Le Train Fantôme. Alors là, il ne se moque pas de groupe, enfin, ça ne parodie pas un groupe. Par contre, là, c'est foutage de gueule total de la SNCF. Donc voilà, c'est.
Ah bon,
oui, avez... bah, le retard
ils
des
sont...
trains.
Là, ils sont tellement
réglos. Je pense qu'ils ont dû se taper un train où ils étaient super en retard et du coup, ils ont dit tiens, on va les pourrir, on va faire une chanson. Quoi.
Alors moi, je leur conseille un nouveau sujet aussi, la poste.
Ouais, ouais. Ah ouais, il va certainement avoir, y avoir un album qui va bientôt arriver, parce que c'est des mecs qui sont quand même qui bossent pas mal quand même, quoi. Donc puis comme en ce moment ils sont pas en concert, hein, je pense qu'ils sont en train de travailler
puis
le prochain
album. Là, si le dernier album là parle de est sorti en 2017, ouais.
Ah mais je peux te dire qu'ils ont tourné, hein, avec, ils ont rempli des salles et des salles et des salles. Ah, enfin, oui. C'est, ah ouais, ça cartonne.
Bah, ils passent d'ailleurs à Plébin au mois d'octobre là.
Ouais, mais je pense que ça va être annulé.
Ouais, bah, peut-être. Ouais.
Hélas. Mais bon, normalement ils passent à Plébin.
Voilà.
Fin octobre. Inch'Allah. Allez, on s'écoute un chien géant d'Ultramomite et ensuite on s'écoute le train fantôme. Et puis je fais une petite dédicace à Lazare qui doit nous écouter, qui est très fan du train fantôme.
Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géant. Tout le monde le sait, mais personne ne dit rien du tout. Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géant. Tout le monde le sait, mais personne ne dit rien. Go! Nous sommes tous prisonniers de cette immonde bestiole, de ce satanique clébard, de ce maudit cabron. Les politiques ferment les yeux, personne ne bouge. Pourtant il faudra bien un jour voir la réalité en face. Un chien géant, c'est comme un chien brillant plus grand, et nous sommes tous enfermés dedans. Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géant. Tout le monde le sait, mais personne ne dit rien du tout. Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géant. Tout le monde le sait, mais personne ne dit rien. Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géant. Tout le monde le sait, mais personne ne dit rien du tout. Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géant. Tout le monde le sait. Nous sommes enfermés dans un chien géant. Un chien géant. Nous sommes enfermés dans un chien géant.
À côté du monsieur là-bas tout seul.
Le train fantôme. Le train fantôme d'Ultra Vomit sur Radio Balise, dans Médiateur Circus sur Radio Balise. Et c'était précédé de du chien géant, d'un chien géant.
Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géant.
Ça reste en tête, hein, ça. Et du coup, c'est marrant parce que quand on va voir ça en live, tout le monde chante les paroles.
Mais en même temps, c'est pas très compliqué.
Ouais, mais alors, il y a des morceaux où c'est un peu plus travaillé et des morceaux où ça s'appelle pipi caca. C'est le pipi, c'est du caca en liquide et en jaune avec une odeur différente. Le caca, c'est du pipi en marron et en dur avec une odeur différente. Mais c'est ça, non, mais et du coup, t'as tout le monde qui chante les trucs. Enfin, ça se déguise, ça machin, ça. Enfin, c'est. Ça fait voler des handicapés en fauteuil roulant, enfin machin, enfin voler, façon de parler, hein, ça fait slammer.
On
hein.
Les jette
oui.
Pas.
Bah, oui. Ça fait slammer, non, c'est toujours dans le respect, tout ça, non, c'est très. Et puis en plus, entre les morceaux, ils sont très drôles aussi. Entre les morceaux, ils vannent, machin, tout ça. Enfin, je pense que c'est un peu préparé, mais c'est très, ils sont très drôles. C'est bien fait. C'est un univers qui est marrant, quoi, qui est un peu métalleux, pipi caca.
Musicalement, en tout cas, ça se tient, quoi.
Ah, ouais, carrément. Mais voilà. Je pense qu'ils sont encore un peu en enfance. C'est un petit quiz du coup.
Ah bah ouais.
Allez, hein.
Ah quiz chaussette. Oui.
Bon alors du coup, moi le quiz chaussette, j'ai voulu faire un petit quiz là sur les instruments de musique. Hein, nous avons un musicien parmi nous.
Ah bon?
Ah bon?
Je ne connais pas.
Et du coup, je me suis demandé si vous saviez à peu près quel instrument principal en fait était pratiqué en France.
La guitare.
Et ben la guitare n'arrive qu'en deuxième.
Ah, la flûte à bec.
Et ben la flûte en troisième.
La batterie.
En premier la batterie.
La percussion.
Non, les percussions arrivent bien après. Hein. Ils ont
la trompette.
Le violon, le piano.
Le piano est en premier, avec 32% de gens qui pratiquent le piano, en fait.
Hein. Ouais.
Alors que la guitare, il n'y en a que 18%.
Ah bon ?
Ah !
J'ai été très surprise, j'aurais pensé l'inverse, parce que même par rapport au prix de l'instrument, en fait, je voyais la guitare beaucoup plus abordable que le piano. Mais en fait, je pense qu'il n'y a pas tant que ça de monde qui joue, en fait, d'instruments de musique.
Ouais.
Et du coup, c'est assez élitiste, en fait.
Après, c'est ça, le truc, c'est que t'as des gens qui veulent que leurs enfants jouent de la musique, et du coup, il y a aussi ce côté toujours prestigieux de jouer
guitare.
Du piano.
Parce que ceux qui jouent de la musique, on verra tout à l'heure, mais c'est plutôt dans la petite enfance, en fait.
Ouais.
Et le triangle, il arrive en combien de positions?
Le triangle, je sais pas, c'est peut-être une percussion.
Je pense, ouais.
Ouais.
Donc, percussion, 4%. Hein.
c'est très peu.
Donc, le piano, 32%. La guitare, 18%. La flûte, que tu disais tout à l'heure, 15%.
Vas-y, dis-moi. C'est moi.
C'est toi, pardon.
Bah ouais, mais en même temps, dans les écoles, ils jouent tous de la flûte avec. Donc, tu te dis
qu'il y a... Il n'y a plus.
Mon Dieu, quel soulagement pour les professeurs de musique.
Mais c'est quoi maintenant, de l'harmonica?
Bah non, ils chantent.
Ils chantent. Ils se sont dit qu'il fallait arrêter le calvaire, quoi.
Ils se sont dit qu'ils vont tous faire The Voice.
Moi, j'ai adoré faire la flûte au collège.
Alors, écoute, c'est pas une question d'adorer. Alors, tu fais partie des rares personnes qui ont adoré, mais moi, je pense que déjà, ça devait détruire les tympans de ces pauvres profs de musique. Et moi, je me vois. En fait.
Faut voir les chants aussi, faut voir aussi.
Non, mais attends, quand t'étais interrogé devant toute ta classe. Et que tu devais faire de la flûte, tu tremblais avec ta flûte et tout.
Le souffle qui était pas bon.
Ah non, c'était un calvaire.
Moi, j'en connais qui chante et qui casse les oreilles, hein, quand même.
Ah ouais, bah ça, évidemment. Mais bon, c'est moi, Pierre, je pense que la flûte avec.
Ah ouais ?
Ah ouais. Attends, t'as 30 élèves dans ta classe qui jouent de la flûte.
Qui jouent mal, qui placent mal les doigts, du coup,
ça doit être moins facile à maîtriser que des gamins qui chantent.
Ouais.
Tu vois, t'arrives un peu
alors
plus
après, à calmer.
Du coup, c'est déjà le jury préparé de The Voice, quoi. C'est un peu ça, non?
Ouais, mais en même temps, faut pas oublier aussi quand même que c'est un collège. T'as ceux qui sont en train de muer aussi. Hein.
Ouais.
Je suis sûr que ce soit tellement mieux.
C'est vrai, j'avais pas pensé à ça.
Moi aussi, c'est vrai que j'ai du mal à.
Donc du coup, après la flûte, on a le violon, violoncelle, en fait, à 6%.
Ouais.
L'accordéon à 5%.
Ah ouais, on est en France, c'est vrai, l'accordéon, ça marche.
L'orgue, 4%.
Ah quand même.
Ah ouais.
L'orgue. Enfin, ouais. L'orgue arrive quand même avant la trompette,
mais
le saxo, les percussions.
C'est beau, le jeu de l'orgue, c'est vachement beau.
Oui.
Mais
quand même.
C'est rare.
Où les gens trouvent un orgue avec lequel jouer, un piano.
Bah,
tu
dans
vois,
l'église.
Oui, mais bon.
Mais attends, pas dans l'église. Il est chez lui. Tu vas taper à la porte de l'église. Toi, bonjour, j'aimerais jouer de votre orgue, s'il vous plaît.
Allez-y. Vous avez quel âge? Pas en dessous de 12 ans. Pas au-dessus de 12 ans.
Ouais, c'est ça.
Pas au-dessus de 12 ans. Non, pas en dessous de 2 ans. On va pas tenter le curé. Oh là. Bon, allez.
Bon, alors.
Bah, arrêtez avec les blagues.
Alors, quels genres musicaux sont pratiqués avec ces instruments-là, d'après vous?
Bah, la musique classique, déjà, ah bah, d'une part.
Parce qu'on est déjà dans le piano, donc forcément, le classique arrive à 64%, en fait.
Et puis, si on parle après de guitare, bah, peut-être un peu de rock, un peu de folk.
Avant, il y a le jazz.
Ah,
le jazz.
Bah oui, évidemment.
Le jazz.
Bah, oui.
Ouais. Ce qu'on fait au conservatoire.
Ah, ouais, je pense qu'on est très dans un truc scolaire, en fait.
Ouais,
quoi.
Ouais,
trop, peut-être.
Oh non, parce que le jazz, c'est quand même déstructuré. C'est plutôt avoir une approche.
Le jazz, ouais.
C'est avoir conscience des contretemps.
C'est classique qui est très carré, quoi.
Ouais, c'est ça.
Bon, après, par contre, on arrive au rock folk à 17%. La variété, pareil, 17%. Le folklorique, 11%. Et les autres, bon, après, ça se disperse. 5%. Ouais.
Le métal?
Ah, le métal, je pense que c'est dans autre, dans les 5%, ouais. Tu vois. Là, ou rock, folk, peut-être. Ouais. Je sais pas trop dans quoi ça, ils ont pu ranger ça, tu vois, mais voilà, c'était un petit peu comment c'était partagé. Donc, où les gens ont appris, d'après vous?
La musique,
la musique.
À l'école?
Oh, bah, non, j'irai en autodidacte. Je pense que la majorité des gens qui font de la musique sont autodidactes.
Eh ben, ils sont à 15% quand même en autodidacte.
Non, moi j'irai l'école de solfège, l'école de musique.
Eh ben.
Professeur particulier?
Là, ça arrive en
l'harmonie.
Ça arrive en deuxième.
En harmonie,
vois, en musique, 22%.
Dans les harmonies et non.
Les conservatoires?
Ouais. Bah, non, pas. Ouais.
Ça arrive.
Avant d'arriver en harmonie, il faut déjà avoir appris la musique.
Ouais, c'est ça, ouais.
Non, je dirais professeur particulier, non?
Eh ben, ouais.
Ouais, c'est ça,
c'est
en
ça.
Premier.
À 49%, c'est des cours particuliers, en fait. Donc, voilà.
Ah, c'est pour ça que, du coup, bah, la musique, ça coûte cher.
Ça coûte cher.
Au-delà
hein.
de l'instrument, tu parlais du piano tout à l'heure, qui était un instrument assez coûteux. Et c'est vrai que, du coup, bah, prendre un professeur particulier, ça a quand même un coût.
Hein. C'est les instruments et tout ce qui va avec, hein, tous les accessoires, les machins. Enfin, c'est. Parce que des fois, l'instrument, on se dit, bon, bah, tiens, ça va, mais en fait, pour chaque instrument, il faut un tas d'accessoires.
Ah bah oui.
La culture coûte cher, de toute façon, voilà. Dans tous les domaines culturels.
Les arts plastiques aussi.
La culture coûte cher, de toute manière.
Ouais, ils se rincent bien là-dessus.
Bien sûr.
Ouais. Bon, après, c'est un savoir-faire aussi.
La photo, ça coûte cher. Les arts plastiques,
après, c'est un savoir-faire aussi. Hein. T'achètes une trompette, tu sais que derrière, il y a un mec qui a bien bossé dessus aussi pour que ça te fasse le son parfait.
Regarde même le piano, t'es obligé de faire revenir régulièrement quelqu'un pour venir le réaccorder. Très peu de monde qui sait accorder son propre piano.
Ah non, c'est clair. Hein. Moi non plus, je peux le faire. J'ai pas de piano.
Moi non plus, ça tombe bien. Bon, alors, quelle est la part des Français ayant déjà appris à jouer un instrument de musique au cours de sa vie?
La part de Français, alors attends.
Au cours de sa vie?
Oui. 30% de Français.
Oh, moi, j'ai au moins 15.
Eh ben, un petit mélange des deux, en fait. Parce que j'ai 31% de personnes qui ont déjà joué un instrument, mais qui n'y jouent plus ou quasiment plus.
Ouais, voilà, moi, je voyais la question comme ça.
Ouais. Bah là, tu vois, 30%.
Qui ont touché, mais qui n'ont pas forcément persévéré.
Et il n'y en a que 6 qui ont appris et qui jouent toujours, en fait.
Jouent
de leur vie.
Putain, c'est pas beaucoup. Hein.
6%, c'est ridicule. Je suis tombée quand même.
Moi, je m'attendais pas à si peu.
Si peu. Ah ouais, moi, c'est pareil.
C'est parti des 6%.
Et par contre, alors, bon, on est bien dans le cas français, tu vois, regretter toujours. Je veux dire, rien n'est jamais trop tard. Mais en tout cas, on a quand même 44% des Français qui n'ont jamais fait de musique et qui le regrettent et qui voudraient savoir jouer un instrument.
Ouais.
Mais j'ai envie de dire, c'est pas trop tard, quoi.
C'est pas trop tard, mais c'est vrai que en vieillissant, t'as moins de naïveté, en fait. Hein. Je pense que tu réfléchis beaucoup plus. T'as moins de temps.
Non, mais t'assimiles moins.
Voilà.
T'assimiles moins vite les trucs. C'est ça.
Quand t'es gamin,
t'es hyper productif.
Enfin, t'es énergique.
Ouais, c'est ça. Tu t'enregistres vite et après, tu peux devenir très productif dans. Donc, si tu composes.
Oui, oui, oui.
Mais que quand là, je fais sentir, c'est un petit peu plus
compliqué. Mais quand même, tu vois, 44% de gens qui regrettent un truc, je me dis quand même, c'est exagéré aussi, tu ouais. vois. Enfin,
Ah, moi, je regrette de ne pas avoir fait de musique. Parce que bon, après, j'ai... Bah, en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'après, tu peux avoir une éducation. Moi, j'ai une éducation, par exemple, basée sur le sport. Tu vois, oui, mon père était très sportif. Quand j'ai dit que je voulais faire de la musique, non.
Oui, mais
non,
regarde,
ce ne sera pas possible, tu feras du sport.
Si tu le regrettes, pourquoi ne pas prendre une heure par semaine et voilà.
Bah, non, mais moi, je regrette d'en avoir fait, moi, tu vois.
C'est du sport
si je calcule
ou de la musique.
Si je calcule tout ce que j'ai dépensé pour la musique, je me dis... Ah, quand même. Ah. Mais non,
menteur.
En fait, c'est pas vrai. Non, c'est pas
menteur.
Vrai. C'est pas vrai.
Moi, j'aurais aimé. Il y a des trucs que j'aurais aimé faire en musique. Je sais pas, de la basse, par exemple, ça m'aurait vachement plu. Et mais voilà, c'est un manque de temps parce qu'après, en vieillissant, bah, t'as certaines priorités. Tu te dédies aussi à certaines passions et voilà. Ah, donc oui. En contrepartie, bah regarde, je fais. On est là ensemble à faire de la radio voilà. Et à parler musique et à échanger.
C'est pas mal, quand même.
Du coup, voilà, je compense.
C'est joli. Alors, sinon... Bah oui, c'est mignon. Enfin, écoute, faut savoir...
Bah ouais. Hein.
Alors, d'après vous, à quel âge on commence la pratique de la musique, justement? On en parlait tout à l'heure, c'était assez jeune.
7 ans.
7 ans, bah c'est même plus tôt. En fait.
6 ans?
Ah ouais,
bah, entre 4 et 9 ans, ils sont 42%, quoi. Bon là, tu sens les parents quand même derrière, hein, parce que bon, entre 4 et 9 ans, c'est rare, je pense, les enfants qui disent « j'ai envie de faire de la musique ».
Est-ce qu'il y en a qui commencent à 1 an?
T'as commencé à 1 an?
Non.
Ah non?
Non.
Ça me paraît tôt quand même.
Mon fils.
Ah. Ouais, mais attends, c'est pas un prodige non plus.
Ah non.
Je veux dire, à 1 an...
Ah, mais elle commençait à taper sur la batterie.
Voilà, il était content.
Ah, mais elle commençait à faire la musique.
Bien sûr.
Eh bien, écoute, ça va lui servir quand même, hein, parce que je vais arriver sur un truc.
Ah.
Alors sinon, entre 10 et 14 ans, ils sont 35%. Et entre 15 et 19 ans, on tombe à 12%.
Ouais.
Passé 19 ans, ça tombe comme...
Après, même déjà, je suis surprise qu'il y en ait autant à l'adolescence. Parce que c'est vrai que maintenant, oui. Comme il y a la pré-adolescence, on va dire qu'après, on préfère forcément aller plutôt sortir avec ses copains plutôt que d'aller au cours de musique. Hein.
Mais
comme et au sport, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai aussi. Ouais. C'est à peu près les activités un peu parallèles. De toute manière, c'est tu fais soit sport, soit musique.
Voilà, mais après, tu préfères faire copain, quoi.
Voilà. C'est ça. Mais donc, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, pour tous les enfants qui ont commencé la musique avant 7 ans, il y a une étude, en fait, canadienne qui montre que ces enfants ont une meilleure connectivité, en fait, au niveau des aires motrices du cerveau.
Ouais.
Et donc, par exemple, ils ont fait des expériences avec des enfants qui ont commencé la musique avant 7 ans, après 7 ans, et ceux qu'on n'ont pas fait du tout, en fait. Et ils se sont rendus compte que pour assimiler une gestuelle en fait particulière, ouais. Ceux qui avaient fait de la musique avant 7 ans y arrivaient beaucoup plus facilement que même ceux qui avaient commencé la musique après 7 ans.
D'accord, ouais.
Et par rapport à ceux même qui n'en avaient jamais fait. Du coup, voilà, commencer la musique avant 7 ans sert quand même au niveau du cerveau. Enfin, voilà, c'est prouvé scientifiquement.
D'accord, ça développe en fait certaines facultés.
Ouais.
D'accord.
Du coup, voilà.
Bah cool, hein.
Ben ouais. Dans tous les cas, la pratique de la musique sur les enfants... a des conséquences positives sur les zones du cerveau qui gèrent la mémoire, l'attention et l'organisation. Et la musique aiderait aussi les enfants à maîtriser leurs émotions, leur stress et leur anxiété. Donc dans tous les cas, j'ai envie de dire, faut pratiquer de la musique à n'importe quel âge. Parce qu'on reste de grands enfants, donc je pense que si c'est bon pour eux,
c'est bon pour nous aussi. Non, c'est vrai, t'as raison. De toute façon, même... Rien que, je sais pas, le premier moment où on écoute de la musique, souvent la journée, c'est bah, quand tu rentres dans ta bagnole pour aller au boulot, hein, bah, tu te rends compte qu'en fonction de ton humeur, etc., t'écoutes pas la même chose.
Ah ouais.
Et ça te plonge dans un état, en fonction de ce que t'écoutes, bah, ton état peut changer ou tout ça. Et du coup, on dit que la musique adoucit les mœurs, bah ouais.
Ah ouais, mais j'en reste persuadée.
Eh ben merci Freddy. On a eu un peu plus d'infos sur la... La musique aussi, hein. En fait, les quiz savent pas mal. Hein. On se marre bien, on répond au truc,
mais
on apprend pas mal de choses. Hein,
merci, Frédéric.
Avec plaisir. J'apprends moi-même des choses.
Allez, moi, je vais vous apprendre quelque chose, tiens. Que les amateurs de violence restent à l'antenne.
De violence.
Oui, parce que là, c'est de la violence. On peut dire que c'est ça, tout simplement. On va parler de Kickback. Groupe de hardcore français, Négative Hardcore. Les premiers groupes qui a, créé du, le, qui a fait du Négative Hardcore en France.
Ils ont c'est un groupe français, Kickback hein.
Ouais, ouais. Ils ont commencé en 91, ils ont, ils ont arrêté en 2013. C'est un groupe parisien. Le leader du groupe et chanteur s'appelle Stéphane Bessac. Et donc voilà, Stéphane Bessac est un mec quand même. Enfin, déjà quand on voit sa tête, il est pas quand même. Même s'il est apparemment sympa en dehors, tout ça. Moi j'ai déjà vu en concert. Bon, j'ai déjà vu sourire en concert, mais j'ai déjà vu hyper énervé, pris dans son truc, tout ça. Enfin bref, quoi. Il peut demander des fois aux gens de se taper dessus. Hein, voilà, directement.
Ouais, les gens le font.
Ah ouais, s'il y en a un qui l'emmerde pendant le concert, il va dire allez, foutez-lui sur la gueule. Ça, ouais, ouais. Ou même lui, il peut venir à en frapper un s'il y en a un qui. Voilà, s'il
y
a un qui.
Et s'il y a quelqu'un du public qui a envie d'aller le frapper lui.
Ah bah, il s'en prend en plein la tronche. Hein, parce
est-ce qu'il se frappe attention, tout le chanteur, seul, comme le chanteur de Dillinger.
Bah, je sais pas, il est un peu possédé, il s'énerve, mais il a une gestuelle en fait qui montre ce côté de violence, de je sais pas, il dégage une énergie quand même aussi en même temps que j'aime beaucoup moi aussi dans ce style-là. Je dis pas que c'est bien la violence ou ça, pas du tout, hein, mais voilà. C'est juste pour faire aussi faire un peu un parallèle par rapport à ce qui se passe en ce moment dans quelques concerts de hardcore où en fait ils ont une nouvelle façon de danser, où c'est plus de la mosh part, ça va encore plus loin que ça, où ça se tape des fois sur la tronche ou ça machin.
Mosh part déjà,
mais ça vient un peu de.
Hein ouais, faut que t'expliques après.
Alors, mosh part, c'est les mecs qui dansent comme tu vois un peu.
Moi, je connaissais le pogo.
Ils lancent les bras, les jambes, tout ça. Ouais, ouais, c'est. Ils mochent en fait, hein, mais ça, ils mochent, c'est les jambes. C'est comme la capoeira en fait.
D'accord.
C'est un peu comme la capoeira, mais voilà, tout, en suivant un rythme,
ils
tout
font
ça.
Les hélicoptères.
Et ils se croisent.
Ils lancent
les bras comme ça. Ça forme un grand cercle. Non mais ça forme un grand cercle et du coup les gens se croisent en faisant cette danse. Ça lance les jambes, ça lance les bras, machin.
Ouais, voilà.
Donc tu peux te prendre un coup si tu passes là-dedans ou alors tu t'écartes et tu te mets à l'extérieur du cercle.
D'accord, oui.
Mais voilà, en général, si on te met un coup, on s'excuse, machin. Enfin, il y a une forme de respect. Sauf que c'est du négatif hardcore. Donc il y a pas de respect.
Il y a pas de respect.
Il y a pas de respect. C'est en dedans. On peut appeler ça un peu. C'est un peu du. Ça pourrait être presque du hardcore de. Il montre un peu le. Parce que voilà, il y avait les rappeurs, tout ça aussi, qui montraient la banlieue. Mais en fait, il montre la banlieue aussi dans ce style de musique-là aussi, en fait. Cette banlieue qui galère et qui a la rage, en fait. C'est cette rage-là qu'on ressent. Et en fait, il faut savoir aussi qu'ils ont sorti un album qui s'appelle Les 150 Passions Meurtrières. Enfin voilà, c'est très dark, donc c'est très sombre, c'est très voilà quoi. Et c'est ça donne pas non plus envie, mais moi c'est
non,
comme ça.
Ça me donne pas envie. Je
mais voilà, moi je les ai vus en concert, ça dégageait une énergie folle. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait référence pendant longtemps à ce style de musique, qui venaient dans les concerts de Positive Hardcore, qui du coup qui mochaient, qui faisaient cette fameuse danse. Mm-hmm. Sauf qu'ils commençaient à rentrer dans l'art des gens, puis on disait ah mais non ici t'es pas au concert de Kickback. C'était la référence de dire ah, si t'es pas au concert de Kickback, tu respectes tout le monde. Voilà quoi, c'était un peu. Et actuellement, il y a un style qui sort encore, qui arrive encore un peu comme ça. Et c'est pas forcément la musique qui est négative, mais c'est juste les gens. Ouais, on voit ça arrive beaucoup aux Pays-Bas et en Belgique et tout ça. Et du coup, en fait, ça se rentre dedans, ça se rampe, ça se met des trucs.
Moi, David, c'est trop violent. Tu as montré des vidéos là, tu dis c'est.
Ah non, mais moi je déteste trop ce genre de truc. Mais je voudrais juste dire qu'ils n'inventent rien. C'est un truc qui existait déjà au début des années 90. Allez, on s'écoute Kickback et vous allez voir un peu. C'est un chant particulier, mais c'est un chant hargneux. Ça, voilà, ils ont
ça
la
va
rage.
Avec le
on va s'écouter Sideshow sur l'album No Surrender et on va s'écouter Ruining the Show.
Ruining the Show.
Ouais, ils vont ruiner le show. Oh, c'est
ah, d'accord. Ah, mais c'est pas courir. On va pas courir.
Ouais, ouais,
le
c'est
show.
Ruining the Show. Et j'ai du mal peut-être à le prononcer, mais en tout cas, c'est sur l'album Les 150 Passions Meurtrières. On s'écoute ça et on se retrouve juste après. Voilà, c'était Kickback.
Ça c'est fait.
Ouais, ouais. Mais voilà.
Rassurez-moi.
Voilà, c'est pour montrer un peu le côté très négatif et puis voilà, c'est cette espèce de violence qu'il y avait déjà dans les début des années 90 jusqu'à. Ça a duré jusqu'à 2013, mais bon, ça a été beaucoup copié en France.
Ils tournent plus du tout, en fait, ils font plus rien.
Non, ils ont arrêté. Alors lui, je pense qu'il fait encore du, mais je pense qu'il fait du hip-hop ou quelque chose comme ça, quoi.
D'accord.
Ou il faut autre chose, mais. Je me demande même s'il n'a pas quitté la France.
Ah oui.
Bah après, c'est tous les potes Seth Gecko et machin. Enfin, je crois, je sais plus.
Ah ouais, c'est ouais. Même clique que Seth Gecko, hein.
Non, je sais pas. Mais je serais pas surpris qu'il ait monté un truc dans un pays asiatique ou quelque chose comme ça, je pense.
Ah oui, ok.
Tu sais, en Indonésie ou en Thaïlande ou machin.
C'est un peu le même état d'esprit.
Le même état d'esprit, un peu. Voilà quoi.
Okay.
En France, c'est la merde, on n'y reste pas. Donc voilà. Bon, bah, du coup, l'émission tout ça, touche à sa fin.
Déjà,
ouais. Déjà, ouais.
Et bah écoutez, merci aux auditeurs d'avoir écouté l'émission. J'espère que tout le monde a réussi à tenir jusqu'au bout. Et puis, on se retrouve dans deux semaines, vendredi, de 20h à 22h. Tous les trois, toujours. Hein. On sera toujours tous les trois, je pense, à l'antenne. Enfin, en tout cas, dans deux semaines, on sera tous les trois.
Dans deux semaines, on sera tous les trois.
Allez, on va se quitter en fait avec un morceau que j'affectionne particulièrement, c'est du punk hardcore. Non, mais tu vas voir Freddy, ne rigole pas, c'est du punk hardcore chanté. C'est Wisdom in Chains, c'est un black, un chanteur qui chante aussi, qui a une façon de... Il chante de la manière un peu afro, mais du punk hardcore, et c'est vachement sympa.
D'accord.
Voilà, et c'est le morceau s'appelle Back to the Ocean. Donc voilà, retour aux océans.
Allons-y.
C'est ce qu'on fait ici. Allez.
Chez Radio Balise.
Salut à tous.
Salut.
Dans deux semaines, 20h, 22h.
Salut à tous.
Salut, portez-vous bien. And look at the floor with my hands in my pockets as I fidget and play with my tie. Don't look him in the eye and you might not cry. So much love is unusual, but why's it gotta be at a funeral? This one's for the aces. They put me out of my thuggish places. They show me kindness and show me love. I never said thank you the way I should have. And now my little